Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Évangile selon Luc, chapitre 17, et on lit à partir du verset 11. Vous avez trouvé ? Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur !» Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris ? Et les 9 autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ?» Puis, il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Amen. Jésus est en train de se rendre à Jérusalem. Et on sait que si Jésus se rend à Jérusalem, c'est parce qu'il sait qu'il va être crucifié. Il l'a dit à ses disciples, « Je dois aller à Jérusalem afin d'accomplir ma mission, le pourquoi de ma venue sur la terre. » Jésus se rend à Jérusalem et puis la route fait en sorte qu'il passe entre la Samarie et la Galilée, entre les deux régions. Donc, c'est normal que là, entre la Samarie et la Galilée, on trouve et des Galiléens et des Samaritains. Et là, dans ce village, qui doit être à peu près mixte, puisqu'on est entre la Samarie et la Galilée, enfin qu'importe, Jésus rentre dans ce village et voilà que 10 lépreux vinrent à sa rencontre. C'est clair, ces 10 lépreux ne sont pas arrivés là par hasard. Il n'est pas dit que Jésus passait puis tout d'un coup il a vu 10 lépreux qui se trouvaient sur son chemin. Non. Ces 10 lépreux sont venus à la rencontre de Jésus. Ce qui sous-entend que ces 10 lépreux, d'une manière volontaire, ont dit « Jésus passe dans ce village, il faut que nous allions à sa rencontre ». Si les 10 lépreux n'avaient pas bougé, jamais ils n'auraient rencontré Jésus. Mais ils ont pris la décision, ils se sont mis en œuvre, ils se sont mis à bouger, à agir, pour dire « Allons à la rencontre de Jésus ». Ils allèrent à la rencontre de Jésus. Ils vinrent à la rencontre de Jésus. De la même manière, des fois on attend que le Seigneur vienne à notre rencontre. Notez bien que Jésus est passé pas loin d'eux. Mais que si eux n'avaient pas bougé, ils n'auraient jamais rencontré le Seigneur et n'auraient jamais été guéris. Mais ils ont entendu que Jésus était prêt. Sachant que Jésus est prêt, ils décident, eux, d'aller à sa rencontre. De la même manière, ce matin, peut-être que plusieurs se disent « Mais moi, j'attends que Dieu vienne devant ma porte, vienne là, juste devant moi. » Mais il est prêt, il n'est pas loin. Et il suffirait d'un pas de votre part, il suffirait d'un mouvement vers lui, d'aller vers lui pour la rencontre, pour le miracle, pour voir la gloire de Dieu. Des fois, on est trop souvent en train de dire « Moi, c'est pas à moi de bouger, c'est à lui. » Mais si nous faisons un pas, il fait un pas. Mais là, en l'occurrence, c'est lui qui a fait le premier pas. Et il attend de nous qu'on fasse un pas vers lui. Pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas nous brusquer. Parce qu'il n'est pas là pour s'imposer à nous. Mais la prédication de Jésus, quand on la voit résumée dans l'Évangile, nous dit que quand Jésus a commencé à prêcher, il disait « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Il s'est approché de vous. » Il est proche. Mais s'il est proche, ça veut dire qu'il n'est pas là juste devant moi. C'est qu'il n'est pas loin. Oui ? Il est proche. Et quelque part, être proche, ça veut dire il est accessible. Comme il s'est approché de vous, il est accessible. Avant, il était trop loin, le royaume de Dieu. Il était inaccessible. On ne pouvait pas y aller. C'était trop loin. C'était difficile. C'était impossible. Mais en Jésus, le royaume de Dieu est venu s'approcher de nous. Il est proche. Il est accessible. Mais c'est à nous à faire un pas pour rentrer dans ce royaume de Dieu. Et Jésus en est la porte. Je suis la porte. Quelqu'un entre par moi, dit Jésus, il sera sauvé. Le royaume de Dieu s'est approché de nous Mais ce matin, laissez-moi vous dire qu'il est là, tout proche, tout près de vous. Cette parole est là, toute proche, près de votre cœur. Si je reprends l'épître de Paul aux Romains, oui, Jésus est là, tout proche. Mais ces 10 lépreux, ça leur suffit pas de savoir que Jésus est proche. Ils ont besoin d'un contact, ils ont besoin d'une rencontre, ils ont besoin de rencontrer Jésus. Alors, ils allèrent à sa rencontre. Au royaume de Dieu, Jésus est là, proche, mais c'est à vous de faire un pas, d'avancer et de vous approcher de lui. Ils allèrent à sa rencontre et ils se sont tenus à distance. Alors vous allez dire, oui, mais là c'est un peu paradoxal. Ils viennent vers lui, mais ils restent à distance. Comprenez que là, on est entre la Samarie et la Galilée. On est à une époque, bon, la lèpre, c'est contagieux. Et les lépreux n'ont pas le droit d'être au contact de ceux qui ne sont pas lépreux. Et même, ils devaient se tenir loin. Et là, quelque part, ils prennent des risques à s'approcher d'un village. Ils n'ont pas le droit. Les lépreux sont bannis du village. Ils doivent habiter en dehors du village et n'ont pas le droit de s'approcher de qui que ce soit. Alors qu'ils s'approchent de Jésus suffisamment près pour pouvoir être entendus de lui, ils gardent ces distances à cause des autres. Ils ont peur, quelque part, d'être lapidés par la foule s'ils s'approchent trop près. Mais ils se tiennent à une certaine distance. Et ils élèvent la voix, ils supplient Jésus, ils prient Jésus en disant « Jésus, connaissent son nom ». Les 10 lépreux connaissent le nom de Jésus, Maître, aie pitié de nous. Ils viennent vers Jésus, ils savent que c'est Jésus. Et s'ils viennent vers Jésus, c'est parce qu'ils savent qu'en Jésus, ils pourront obtenir miséricorde, grâce, guérison. Ils viennent vers Jésus. Et ils viennent pas vers Jésus en disant « Seigneur, si tu peux quelque chose ». Non, aie pitié de nous. La seule chose qu'ils demandent au Seigneur, c'est la compassion, c'est la grâce, c'est la pitié. Parce qu'ils savent que si Jésus a pitié d'eux, que si Jésus a compassion d'eux, que si Jésus les aime, que si Jésus manifeste son amour pour eux, ça va être bon pour eux. Et c'est la guérison. Certainement qu'ils ont entendu parler de cet autre lépreux qui a été guéri, qui était venu vers Jésus et qui lui avait dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Si tu le veux. Si tu le veux, non pas si tu le peux. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus avait répondu « Je le veux, sois pur. » Ils ont entendu certainement parler de ces nombreuses guérisons qui s'étaient déjà déroulées dans les mois précédents. Et quand ils viennent vers Jésus, la question n'est pas « Est-ce que le Seigneur peut me guérir ? Est-ce qu'il peut nous purifier de notre lèpre ? Est-ce qu'il peut vraiment quelque chose pour nous, Jésus ?» Oui, non, ils savent que Jésus est celui qui est le remède, la solution, nulle part ailleurs. On est là, la lèpre ne se guérit pas à cette époque, il n'y a pas de médicaments, il n'y a rien. Encore aujourd'hui, la lèpre se guérit pas, il ne me semble pas. On arrive à la retarder, on arrive à un petit peu arrêter les effets de la lèpre. Voilà que on vient vers Jésus en disant « Seigneur, aie pitié, que ton amour, que ta compassion soit pour nous. » Et là, Luc nous dit dans l'évangile qu'on a lu ensemble, dès qu'il les eut vus. Jésus a pas dit « Bon, attendez, il faut que je réfléchisse, attendez, il faut que je voie. » Dès que Jésus les a vus, dès qu'il les a vus, qu'il a eu ce contact avec eux, Jésus va leur dire « Allez vous montrer au sacrificateur. » Est-ce qu'on comprend ce qui se passe? Voilà 10 lépreux qui viennent vers Jésus, qui viennent supplier Jésus. « Seigneur, aie pitié de nous, prends pitié de nous, nous avons besoin de toi, nous avons besoin que tu nous guérisses, nous avons besoin que tu fasses quelque chose pour nous. » Et Jésus va dire « Partez !» Où ça? Vers les sacrificateurs. Les hommes de la religion, oui, mais ils ne peuvent rien pour nous. Qu'est-ce qu'un sacrificateur? Qu'est-ce que les sacrificateurs peuvent faire pour ces hommes? À votre avis? Bon. On va aller dans Luc, chapitre 5, verset 12. L'histoire d'un autre lépreux. On est là juste avant. On est dans le même évangile. Luc 5, 12. Je faisais référence tout à l'heure. Mais on va relire parce que là aussi, il est question de sacrificateurs. Luc 5, 12. Jésus était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta. Puis, il ordonna de n'en parler à personne, mais il dit, « Va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Sa renommée se répandait de plus en plus, et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie, et lui, il se retirait dans les déserts et il priait. Verset 15, il nous a dit que sa renommée se répandait de plus en plus, et que les gens venaient pour être guéris. Et certainement, dans cette renommée qui s'est répandue, eh bien, les 10 qui sont venus vers Jésus ont entendu parler de cette affaire. Sa renommée s'est répandue. Cette affaire-là, cette histoire, elle a fait le tour des chaumières et des maisons. Jésus a guéri un lépreux. Un lépreux est venu vers lui en disant « si tu le veux ». Nous, aujourd'hui, on aurait tendance à dire « si tu le peux ». Franchement, entre vous et moi, si vous êtes atteint d'une certaine maladie incurable, comme la lèpre, si vous êtes là dans une situation vraiment difficile, si vous parlez à vos voisins, à vos amis, à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, et qui sont là dans une situation tragique, et vous leur parlez de Dieu, leur réponse, ça ne va pas être de dire « mais est-ce que Dieu le veut ?» Leur réponse, ça va être de dire « mais est-ce que Dieu le peut ? Est-ce qu'il peut vraiment faire quelque chose pour moi ?» Les médecins m'ont dit que c'était fini, il n'y avait plus rien à espérer. Est-ce que ton Jésus, il peut vraiment faire quelque chose pour moi ? Cet homme qui vient vers Jésus, et à cette époque-là, on ne se posait pas la question « est-ce que Jésus peut ?» Mais la question que l'on se posait, c'était « est-ce que Jésus veut ?» Parce que pour eux, c'était clair, tout est possible à Dieu. Et la question, c'est pas « est-ce qu'il peut ?» C'est pas le pouvoir, parce que tout pouvoir lui a été donné. Et ce matin, laissez-moi vous dire que Jésus n'a pas changé. Il est le même, hier, aujourd'hui et pour l'éternité, il peut encore. La question n'est pas de se demander s'il le peut. Et si nous nous posons cette question, est-ce que tu peux, Seigneur? C'est quelque part, nous le connaissons mal. Et que sa renommée, là, eh ben, c'est peut-être éteinte, étouffée, et qu'on n'entend plus cette même voix, là, ce même discours qui était là dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, sa renommée qui se répand partout. Il peut tout. N'importe quelle maladie, tu viens vers lui, il te guérira. N'importe quelle situation, n'importe quel problème, Jésus est celui qui guérit. Et bien souvent dans l'Évangile, si vous faites attention, on retrouve ce genre de petites phrases, on amenait à lui les malades, et Jésus les guérissait tous. Tous. Cet homme vient vers Jésus et dit « si tu le veux ». Jésus répond « je le veux ». Cet homme n'avait qu'un seul doute, est-ce qu'il le veut ? Et ce doute ne peut pas être, rassuré. C'est comme ça on dit un doute ? Je cherche mon mot, vous allez m'aider. Ce doute, le seul moyen d'enlever ce doute, voilà, on va dire enlever, c'est mieux. La seule chose qui peut enlever le doute, c'est la parole de Jésus. C'est ce que Jésus va dire. Concernant la toute-puissance de Dieu, ce qui va enlever le doute, eh bien, c'est qui il est. C'est de le connaître, c'est de savoir qui il est. Mais concernant notre situation personnelle, parce que quelqu'un dira, bon, peut-être, d'accord, Jésus a dit à cet homme, je le veux. Mais en ce qui me concerne, est-ce qu'il le veut ? Et peut-être que quelqu'un a comme ce doute dans son cœur ce matin, en disant, Seigneur, si tu le veux, est-ce que Jésus veut te guérir ? Est-ce qu'il veut faire quelque chose pour toi ? Et c'est pas moi qui vais pouvoir enlever ce doute, mais c'est lui. Vous puissiez entendre la même parole que ce lépreux a entendu de Jésus, « Je le veux ». Et quand on entend la parole de Christ, cette parole, elle nourrit notre foi et nous permet d'entrer et de voir la gloire de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et cette parole que cet homme a entendue va mettre de la foi dans son cœur et une foi qui l'amène au salut, qui l'amène à la guérison. Jésus dit, je le veux. Il étend sa main et le touche. Est-ce qu'on se rend compte de ce qui se passe ? C'est-à-dire, bon, ben, il l'a touché, quoi, d'accord. Mais Jésus est en train de toucher un lépreux. Oui. comme si on disait aujourd'hui, il a eu une transfusion sanguine d'un quelqu'un qui a le sida. C'est ça, toucher un lépreux. C'est contagieux. Mais en touchant le lépreux, là, il va avoir la lèpre. Parce que Jésus est devenu lépreux. Ça, c'est au niveau du corps. Mais maintenant, au niveau de la religion, un lépreux, c'est quelqu'un d'impur, par définition. Quelqu'un qui avait la lèpre était considéré comme impur. Et dans le contexte religieux de l'époque, là, dans le judaïsme, toucher quelqu'un d'impur, toucher un lépreux, ça rend impur. Et on doit après se laver et se purifier, et il faut une semaine de purification quand on a touché un lépreux. Est-ce que Jésus, en touchant ce lépreux, devient impur? C'est pas la lèpre qui va venir contaminer Jésus. C'est pas l'impureté de cet homme, sa lèpre, son impureté religieuse, qui va venir contaminer Jésus. Mais c'est la gloire, la sainteté, la puissance qui est en Jésus qui va le contaminer. Les forces là, la force, on va dire, du mal, ou la force du péché, ou la force de la maladie, force de l'impureté dans cet homme, peut pas toucher Jésus. Parce que la force qui est en Jésus est plus grande. Et c'est ça, celle-là, qui vient contaminer, et qui vient relever, qui vient guérir. Et quand Jésus touche cet homme, vous vous souvenez de cette femme qui a touché le bord du vêtement de Jésus? Et Jésus a dit, une force, j'ai connu qu'une force est sortie de moi. Parce qu'elle a touché une force qui est sortie de lui et qui a délivré cette femme, qui a guéri cette femme. Là, c'est pareil. En touchant le lépreux, c'est comme une force qui sort de lui et qui guérit ce lépreux. C'est pas le lépreux qui contamine Jésus, c'est Jésus qui guérit. Et laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui encore, cette même force, cette même puissance dans le nom de Jésus, quand on lit ses promesses en mon nom, dans le nom de Jésus encore, il y a toute la puissance, l'amour, la compassion, la gloire de Dieu. Et la question, c'est pas si tu le peux, il le peut. La question, c'est si tu le veux. Et quand on l'entend nous dire, je le veux, eh bien que notre foi puisse être basée sur cette parole et croire. C'est ce qui s'est passé, je reviens à mes 10 maintenant. Attendez, je reviens à mes 10, mais on était allé au verset 5 pour justement dire qu'une fois que Jésus a guéri ce lépreux, il lui a dit, va te montrer au sacrificateur. Parce que dans la loi de Moïse, il était dit, quand quelqu'un a la lèpre, il ne pourra pas être déclaré pur si sa guérison n'est constatée par un sacrificateur. Et c'était obligatoire. Ces lépreux, même s'ils étaient guéris, étaient toujours considérés comme lépreux. Et quelqu'un pouvait pas dire, ben non, ils sont plus lépreux, regardez, il n'y a plus de lèpre. Non, non, toi tu connais rien, c'est le sacrificateur qui doit déclarer, qui doit examiner, qui doit attester que ces hommes, que cet homme est délivré de sa lèpre. Et Jésus envoie, au chapitre 5, envoie cet homme auprès du sacrificateur, va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Et Jésus va donc dire à cet homme, va te montrer au sacrificateur afin que lui te déclare pur et que tu offres selon la loi de Moïse, eh bien, le sacrifice de reconnaissance, de louange à Dieu pour ta purification. Maintenant, en ce qui concerne les 10, les 10 arrivent vers Jésus. Et de la même manière, ils disent à Jésus, si tu le veux, puisqu'ils disent, aie pitié, prends pitié et compassion de nous, aie pitié de nous. Et Jésus dit, allez, vous montrez au sacrificateur. Et les 10 vont dire, oui, c'est vrai, c'est ce qui s'est passé au chapitre 5. Bon, c'était pas le chapitre 5 pour eux, mais la renommée était venue jusqu'à eux, ils ont connu cette histoire. Bon, c'est vrai, un homme était venu vers Jésus, mais il l'a touché, et ils ont été délivrés, et il a été guéri. Et après, il a dit, va te montrer au sacrificateur. Tandis que là, quand Jésus dit aux 10, allez vous montrer au sacrificateur, est-ce qu'ils sont guéris de leur lèpre? Non! Jésus leur dit, va! Et ils sont pas guéris. Qu'est-ce qu'on va aller faire vers le sacrificateur? Vous n'êtes pas convaincus là, je vous le démontre. Puisqu'il est dit, pendant qu'ils y allaient, ils ont été guéris. Donc avant d'y aller, ils ne sont pas guéris. Au moment même où Jésus dit, va te montrer au sacrificateur, ils sont toujours lépreux. Et vous dire, mais Seigneur, Tu ne penses pas, là. Nous montrer en tant que lépreux au sacrificateur, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous dire, vous êtes toujours lépreux. Ah oui, mais Jésus a dit d'aller vers le sacrificateur, d'aller nous montrer comme si on était guéri. Nous, on ne l'est pas. Mais qu'est-ce qui est le plus fort, là? Je le veux, sois pur. Et on a dit, c'était sur cette parole que cet homme a mis sa foi et que sa foi a amené cette guérison. De la même manière, là, il y a une parole de Jésus. Va, allez, vous montrer au sacrificateur. Mais Seigneur, on est toujours lépreux. Jésus a dit de le faire. Et la foi, c'est ça, mes amis. La foi, c'est de croire sans voir. La foi, c'est de croire que l'on a reçu, même si on ne le voit pas. La foi, c'est d'être capable de croire qu'on aura un enfant, même quand on a 99 ans. Non? Il n'y en a pas un dans la Bible, là, qui a fruit comme ça? Le père des croyants. Et que sa femme avait déjà passé l'âge d'enfanter. Elle a déjà eu la ménopause et tout. Alors, non, mais c'est ça que ça veut dire. Bon, il le dit en des termes un peu plus. Elle avait passé, elle était trop vieille maintenant, écoute. Et le Seigneur a dit, tu auras un fils. Le Seigneur, Abraham crut contre toute espérance. Parce que pour lui, le plus important, ce n'était pas ce qu'il voyait, mais c'est ce que Dieu lui avait dit. Et dans notre vie, qu'est-ce qui est le plus important? Ce que l'on voit, ce qui est matériel, ce qui est palpable, ce qui est concret, ou c'est ce que Dieu nous dit? C'est ce que Jésus nous dit, c'est ce que cette parole nous dit. Et c'est vrai que là, on est dans un monde qui est difficile, hein, parce que on est des hommes, on est l'être humain, des hommes, des femmes, là, bien matériels, qui avons les pieds sur terre. Vous avez bien les pieds sur terre, là? Personne qui plane? On a les pieds sur terre, on est là à faire face à des réalités de la vie. Quand il y a une facture, ben, il faut payer avant la date d'échéance. Quand on est là face à une maladie, ben, elle est là, c'est bien réel. Et on ne peut pas rentrer en disant, ben, je vais faire comme si ça n'existait pas. Non, il faut assumer nos responsabilités. Et on est là face à des responsabilités, face à une vie bien matérielle. Et de l'autre côté, il y a Dieu qui met notre foi au défi et qui nous parle et qui nous dit, voilà, tu vas aller te montrer au sacrificateur. Et s'ils n'y étaient pas allés, est-ce qu'ils auraient été guéris, les 10? Jésus leur avait dit simplement, allez vous montrer au sacrificateur. En devançant le miracle, en disant, comme si vous étiez guéris, allez vous montrer au sacrificateur. Mais au moment où Jésus leur dit ça, ils ne savent pas ce qui va se passer. Peut-être que certains se sont dit, de toute façon, on n'a rien à perdre. On n'avait rien à faire aujourd'hui. Même si on y va pour rien, bon, on va y aller. Je ne sais pas s'il y en a un qui s'est dit ça. En tout cas, je pense plutôt que s'ils y sont allés, c'est qu'ils s'attendaient à ce qu'il se passe quelque chose. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils connaissaient Jésus. Ils avaient entendu parler de Jésus. Et il savait que quand Jésus disait quelque chose, même si on comprenait pas toujours ce que Jésus disait, parce que des fois on voit qu'au niveau des paraboles et autres, ils comprenaient pas. Mais eux, ils savaient une chose, c'était que quand Jésus disait quelque chose, sa parole avait une force, une autorité, un pouvoir. Même dans le temple, ceux qui étaient là, qui travaillaient dans le temple, pouvaient dire « jamais homme n'a parlé comme cet homme ». Alors quand ces 10 entendent Jésus leur dire « Allez, vous montrez au sacrificateur », pour eux c'est clair. Si Jésus nous dit de le faire, sa parole est vraie, elle est formelle, elle est certaine. S'il nous dit de le faire, certainement, il va se passer quelque chose. Quoi, comment, où, pourquoi, ils n'en savent rien. Et nous, des fois, on est bien là, devant la parole de Dieu, dans cette même état de faiblesse, en disant « Je comprends pas ». Je ne comprends pas ce qui se passe, je ne comprends pas ce qui va se passer, je ne vois pas l'avenir, je ne connais pas l'avenir. Le Seigneur nous invite à croire simplement. Ne crains pas, crois seulement, et être là dans cet état de confiance et d'obéissance. Parce que va vers le sacrificateur, et ils y sont allés. Techniquement parlant, ils ont obéi à ce que Jésus leur a demandé. Mais de la même manière aujourd'hui, le Seigneur attend de nous qu'on obéisse à sa voix, à sa parole. Même si on ne comprend pas toujours le sens, même si on ne réalise pas toujours ce qu'il va y avoir au bout du chemin, au bout de cette obéissance, Seigneur obéir, d'accord, mais qu'est-ce qui se passe après ? Seigneur obéir, tout simplement, parce que ta parole, eh bien, elle ne passe pas. Ta parole, elle est fiable, elle est digne de foi. Et même si je ne la comprends pas, même si je ne réalise pas tout, même si je ne maîtrise pas l'avenir, je veux croire que ta parole, elle est fiable. Et qu'on a tout à gagner à obéir, à se soumettre, à mettre notre foi dans la parole de notre Seigneur Jésus. Les 10 sont allés vers le sacrificateur, alors qu'ils sont en chemin, il arriva qu'ils ont été tous guéris. Ça va, hein, ça a duré que quelques... Je sais pas combien de temps ça a duré pour aller voir le sacrificateur, alors qu'ils étaient en chemin. Si ça s'est produit 10 minutes après avoir rencontré Jésus, peut-être que le sacrificateur habitait plus loin. Bon, une demi-heure, une heure, 2 heures au maximum, mais il fallait vraiment qu'il habite loin. Hein. Mais bon, c'était assez rapide quand même. Parce que certains diront, mais moi ça fait plusieurs mois que ça dure. Ça fait plusieurs années que ça dure. Et je suis toujours en train de marcher et il ne se produit rien, mais le Seigneur a dit, va là-bas. Bon, ben j'y vais. C'est ça. La foi, c'est aller jusqu'au bout de ce que le Seigneur nous a demandé. Comme quand Abraham va avec Isaac sur la montagne, c'est au dernier moment que ça va se passer. Il est là obéissant à la parole, c'est au dernier moment que le surnaturel, que Dieu va intervenir. De la même manière, en ce qui nous concerne, ça peut être au tout début, et on aime bien quand c'est au tout début, hein, quand on trouve le mot « aussitôt ». Ah Seigneur, j'aimerais que ça se passe comme ça là, aussitôt, tout de suite, maintenant, je veux pas attendre. C'est plus facile, hein. C'est-à-dire que quand notre foi est mise à l'épreuve, où il faut faire un bout de chemin. Et des fois, le bout de chemin peut nous sembler long, en disant, ben je marche là dans l'obéissance de la foi, c'est une expression de l'apôtre Paul, dans l'obéissance de la foi, mais il se passe rien. Eh bien, le Seigneur dit, attends, persévère, va jusqu'au bout. S'il faut, sois aussi patient qu'Abraham. Oula, Abraham, ça a mis du temps. Hein. Non, mais va, patiente, avance, marche. Et même si c'est juste au dernier moment, la parole de Dieu, elle s'accomplira. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. C'est ce qui s'était passé avec un autre lépreux qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Je vais juste y faire référence. C'est dans 2 Rois, chapitre 5. Vous savez, c'est l'histoire de Naaman. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Naaman? Si vous ne connaissez pas cette histoire, vous pourrez la relire tranquillement. C'est dans 2 Rois, chapitre 5, verset 1er jusqu'au verset 15. Je vous dis brièvement ce qui s'est passé. C'est un roi, Naaman, enfin un roi, un chef de l'armée des Syriens, Naaman, qui est lépreux. Et on est toujours là, la lèpre, ça se guérit pas. Il entend dire par une jeune fille qu'il existe en Israël un Dieu qui peut tout, qui est tout puissant. Et parce que son Dieu est tout puissant, eh bien la lèpre, c'est pas un problème pour lui. Et qu'au travers de son prophète, il pourra guérir cet homme, Naaman. Naaman le croit. Et comme les 10 lépreux, il vient vers. Bon, là on est dans l'Ancien Testament, Jésus n'est pas encore là, mais il vient vers. Il va en Israël. Il va trouver le roi d'Israël, mais c'était pas là qu'il fallait aller. Alors il va aller, finalement, il va revenir là où il faut aller, non pas vers le roi, le noble, mais vers l'homme de Dieu. Et il arrive vers l'homme de Dieu, vers le prophète. Le prophète se déplace même pas, il sort même pas de sa maison, et il va juste lui faire dire, écoute, tu as qu'à te plonger 7 fois dans le Jourdain, et tu seras purifié de ta lèpre. Et là, Naaman commence à réfléchir, parce que Naaman, c'est un intellectuel, c'est un chef, là, un chef d'armée, lui, c'est un stratège. En plus, bon, il sait, il a amené toute une armée à la victoire. Voilà que Naaman réfléchit en disant, j'ai fait tout ce chemin pour me plonger dans les eaux, là, du Jourdain. Mais chez nous, nos fleuves, ils sont plus jolis qu'ici. Le Jourdain, c'est des eaux sales, boueuses, c'est pas clair, c'est pas le Saint-Laurent. C'est pas les eaux qu'il y avait dans son pays. Et il dit, mais là, quand même, là, juste, il se moque de moi, ce prophète. C'est trop simple, cette affaire-là. J'ai fait tout chemin pour ça. Et ses serviteurs vont lui dire, écoute, si ce prophète t'avait demandé quelque chose de compliqué, est-ce que tu l'aurais fait? Et Naaman va dire oui. Réfléchit en disant, c'est vrai. s'il m'avait demandé quelque chose de compliqué. Ça marche, là. Si encore, il lui avait fait boire un breuvage mystérieux, une potion, là, qui guérit, s'il lui avait donné de la pommade à mettre sur sa lèpre, s'il lui avait dit de faire telle et telle prière pour chasser un mauvais sort. Bon, mais là, cette fois dans les eaux du Jourdain, et voyez-vous, l'Évangile, c'est quelque chose de simple. Et il faut reconnaître qu'aujourd'hui encore, bien de nos contemporains, et peut-être c'est votre cas, ressemblent à Naaman en disant « c'est trop simple l'Évangile ». Et il faut reconnaître que, en 2004 encore, on préfère les choses compliquées. Quand on réfléchit sur certaines sectes, et ce qu'ils font, c'est compliqué, c'est tordu, mais ils croient là-dedans. Je veux dire, en France, il y en a une fameuse, là, le secte dans le sud de la France, où ils vont tuer des extraterrestres avec des petits pistolets, mais ils font en tuer 10 000 par jour. C'est un truc compliqué. Mais ils croient là-dedans. Et c'est connu, c'est réputé. C'est la secte du Mandarome, si vous avez entendu parler de ça. Et ils sont là-dedans. Et plus c'est compliqué, plus on va adhérer. Tandis que l'Évangile, c'est tellement simple. L'Évangile, c'est croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. L'Évangile, c'est simplement accepter Jésus comme sauveur. Il ne s'agit pas d'une église, il ne s'agit pas d'un pasteur, il ne s'agit pas d'un pays, il ne s'agit pas d'un mouvement. Il s'agit d'une relation simple avec le Dieu de la Bible qui a tant aimé le monde, qu'il a donné Jésus. Et que si Jésus est mort sur une croix, c'était pour nous donner sa vie, afin que par sa mort, nous soyons morts avec lui, et que par sa résurrection, nous ayons la vie avec lui. Et ce message est toujours vrai, aujourd'hui encore. En Jésus, il y a la vie. En Jésus, il y a la purification. Ces lépreux ou ce lépreux devait mourir à cause de sa lèpre, mais parce que Jésus l'a touché. Et parce que en Jésus, il a trouvé la guérison de son corps, il a le salut, parce que c'est plus la mort qui l'attend à cause de la lèpre, mais il devient vivant et il a toute une vie devant lui. De la même manière, en venant vers Jésus, on est délivré, assaini en ce qui concerne le péché, et Jésus nous donne le moyen de vivre. Mais là, cette fois-ci, spirituellement, il s'agit d'une vie éternelle. La vie que Jésus nous donne. Alors, Naaman trouvait ça trop simple, et finalement il réfléchit en disant, ben, si j'ai fait tout chemin pour venir jusque-là, eh ben, pourquoi pas. Alors il va se plonger 7 fois dans les eaux du Jourdain, et voilà qu'il se trouve guéri. Et la conclusion de Naaman va être de dire, je reconnais qu'il n'y a pas de Dieu sur toute la surface de la terre, si ce n'est en Israël. Et Naaman va dire, oui, l'Éternel, Dieu d'Israël, et le vrai Dieu, parce qu'il l'a vu à l'œuvre dans sa vie. Mais ces 10 lépreux vont voir aussi l'œuvre de Dieu dans leur vie, puisque les 10 vont être guéris. Et les 10 qui vont être guéris, il y en a un qui revient vers Jésus. Et les 9 autres continuent. Est-ce qu'il a bien fait de revenir vers Jésus? Est-ce que quelque part, il n'est pas un peu désobéissant celui-là? Jésus lui dit, va te montrer au sacrificateur, est-ce qu'il y va? Ben, il y va, oui, il marche. Et voilà qu'il est guéri, est-ce qu'il continue à aller vers le sacrificateur? Non, il fait demi-tour. Moralité, il n'obéit pas à ce que Jésus lui a demandé. Oui ou non? Vous avez pensé à ça? Il lui dit, va te montrer au sacrificateur. Il est en route, alors qu'il est en route, les 10 sont guéris, apparemment, les 9 continuent d'aller vers le sacrificateur, mais lui, il dit, sacrificateur, c'est pas important, Jésus, c'est plus important. Et il revient vers Jésus, réalisant que sacrificateur, lui, c'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est pas d'être réhabilité dans la société. Parce que c'est ça. Tu vas voir le sacrificateur pour être réhabilité dans la société. Pour pouvoir retourner dans ta famille, pour pouvoir retourner dans ton travail, pour pouvoir retourner dans ta maison que tu avais dû quitter parce que tu étais lépreux, tu peux plus habiter dans le village. Alors on va voir le sacrificateur pour être réhabilité et retrouver les choses que l'on avait perdues à cause de la lèpre. Mais lui, plus important pour lui, c'est pas de retrouver ces choses, c'est pas d'aller voir le sacrificateur, mais c'est pas perdre Jésus. Et pas dire je vais aller vers le sacrificateur et après quand je reviens Jésus sera peut-être plus là. parce qu'il est en train de passer, il est en train d'aller à Jérusalem. Lui, il préfère ne pas perdre Jésus, mais retourner plus tôt possible vers Jésus, et là, se prosterner devant lui, être reconnaissant. Ou peut-être qu'après, il aura l'occasion de retourner voir le sacrificateur. Pour, je ne sais pas, on peut le supposer. Mais en tout cas, lui, son choix était clair. Jésus, c'est important. Et je ne veux pas le perdre. Parce que les autres sont allés vers le sacrificateur. Peut-être que quand ils sont revenus, ben Jésus n'était plus là. Et de la même manière, Jésus, dans notre vie, est-ce qu'il a la première place? Et est-ce qu'on peut revenir à lui quand on a été béni, quand on a été guéri? Est-ce qu'on peut lui rendre grâce, lui rendre gloire? Notez bien que Jésus se sert de cette situation pour apporter un enseignement. Et il va dire, ne s'est-il trouvé que cet étranger? Et Jésus insiste sur le fait que cet homme est samaritain. Non pas que Jésus a quelque chose contre les samaritains, au contraire. On voit dans Jean 4, Jésus parler à une samaritaine, et puis dans bien d'autres passages. Mais Jésus le met en valeur pour dire, en théorie, les 9 autres, s'ils n'étaient pas samaritains, auraient dû être là avant lui. Mais cet étranger, qui n'a peut-être pas la même foi dans le Dieu d'Israël, mais qui a cru dans le nom de Jésus, a compris plus de choses, a compris que Jésus était plus important que les sacrificateurs, a compris que Jésus était réellement celui devant lequel il fallait se prosterner. On est là dans un contexte, je le rappelle encore, on n'est pas en 2004, là on est au temps de Jésus, dans le judaïsme, ben, on se prosterne pas devant quelqu'un, parce qu'il est écrit, tu n'adoreras que l'Éternel ton Dieu. Tu ne te prosterneras devant aucune idole, devant personne d'autre. Quand Daniel a dû plier le genou devant Belshazzar, il a refusé. Non, moi je ne plie le genou devant personne d'autre que Dieu. Mais en pliant le genou, en mettant face contre terre devant Jésus, est-ce que cet homme finalement dit, ben c'est important la loi de Moïse, moi j'adore Jésus? Ou alors est-ce que ça ne va pas plus loin? Est-ce que ce n'est pas tout simplement la confession de dire Jésus est Dieu. Il est Dieu. Comme Thomas, vous savez, à la fin, Thomas avait du mal à croire, quand Jésus va rencontrer Thomas, Thomas va faire cette confession, mon Seigneur et mon Dieu. Réaliser que Jésus est là, Dieu. Il est plus qu'un prophète, il est plus qu'un homme rempli de la puissance de Dieu, il est plus qu'un homme rempli de l'Esprit Saint, il est le Fils de Dieu. Celui qui vient d'en haut, il est Dieu et donc digne d'être adoré, digne de se prosterner devant lui. Et cet homme se prosterne, tout comme Pierre l'a fait en son temps. Cet homme se prosterne devant Jésus, reconnaissant par là que la guérison qu'il a eue, elle venait de Dieu, venait par Jésus, et que Jésus venait de Dieu, et que Jésus est lui-même Dieu et digne d'adoration. Il est vu, et c'est ce que Jésus va dire, ne s'est-il trouvé que cet étranger pour venir donner gloire à Dieu? Cet homme se prosterne devant Jésus. Et Jésus dit pas, est-ce qu'il n'y a que cet étranger qui soit venu me rendre gloire à moi? Mais Jésus dit, il se prosterne devant moi, il me glorifie, mais Jésus va dire, il rend gloire à Dieu. Se prosterner devant Jésus, c'est rendre gloire à Dieu. Louer le nom de Jésus, c'est louer Dieu qui nous a donné Jésus. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour venir donner gloire à Dieu? Et je vais me permettre une digression, petite parenthèse. Peuple d'Israël, quelque part, là, les Juifs, c'est le peuple de Dieu. Samaritain, c'est l'étranger. Et si on essaye de faire une petite leçon par rapport à nous ce matin, en disant, en prenant par exemple les chrétiens, ceux qui vont à l'église, ceux qui fréquentent l'église, ceux qui se proclament chrétiens, et puis ceux qui ne connaissent pas les choses de Dieu. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Dieu veut guérir tout le monde, et il veut bénir tout le monde. Est-ce qu'il ne faut pas reconnaître que des fois, c'est plus souvent ceux qui n'ont pas l'habitude, qui n'ont pas l'habitude d'aller dans une église, qui vont rendre gloire à Dieu et rendre témoignage de ce que Dieu a fait dans leur vie plus facilement? Non? Je me trompe peut-être? Réfléchissez-y. Quand le Seigneur vous bénit, est-ce que vous lui rendrez gloire? Est-ce que vous témoignez? Parce que là, il est dit, il revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Et si on analyse le texte de manière grammaticale, il dit quand il revient sur ses pas, glorifiant Dieu à, en haute voix, moi je comprends que c'est pendant qu'il est en train de revenir qu'il glorifie Dieu à haute voix. Il ne glorifie pas Dieu à haute voix seulement quand il est là devant Jésus. Non, quand il est devant Jésus, il se prosterne devant lui. Mais il est dit, revenant sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Ça veut dire que pendant tout le chemin du retour, quand il revient vers Jésus, à haute voix. Pourquoi à haute voix? Pour que tout le monde l'entende. Pour que tout le monde sache. Gloire à Dieu. Je suis allé vers Jésus. Il m'a dit d'aller vers le sacrificateur. Et voilà, je suis guéri de ma lèpre. Purifié de ma lèpre. Et il rentre et il le crie haut et fort, à haute voix. Et il faut que ça sache. Et quand le Seigneur vous guérit, quand le Seigneur vous bénit, même si c'est une petite affaire, même si c'est une grande affaire, est-ce qu'on a ce même réflexe de dire, faut que je le dise à haute voix? Faut que je glorifie Dieu? Il m'a béni? J'ai prié, il m'a répondu, ah bah oui, mais j'ai prié juste à Dieu, c'est une affaire entre Dieu et moi, vous savez. J'étais dans ma chambre, j'avais besoin, j'ai prié, Dieu a répondu. Voilà, ça y est, c'est juste une affaire entre Dieu et moi. Je lui ai demandé, il m'a donné, je l'ai remercié, voilà. Ça regarde pas les autres. Faut glorifier Dieu. Peut-être pas la peine de donner tous les détails, c'est vrai qu'il peut y avoir des situations qui sont plus personnelles, d'accord? Mais en tout cas, rendez gloire à Dieu. Non? Vous avez peur qu'on vous prenne pour quelqu'un d'un peu fou, en disant, mais pourquoi est-ce qu'il rend gloire à Dieu celui-là? Parce que c'est Dieu qui l'a fait. Ah tiens, tu vas mieux aujourd'hui? Ah ben oui, j'ai pris quelques vitamines. Et t'as prié ou pas? C'est des vitamines ou la prière? À l'église, on dit c'est la prière. Quand on n'est pas à l'église, on dit c'est des vitamines. Il faut savoir. Dites que c'est les vitamines quand vous venez à l'église dans ce cas-là. Mais si vous croyez que c'est Dieu qui vous a relevé, si vous croyez que c'est Dieu qui vous a guéri, ben, c'est Dieu à l'église, mais c'est Dieu aussi quand on n'est pas à l'église, quand on est au travail. Quand on dit, ah là là, on est à l'église, on vient en disant, j'ai échappé à un accident, j'ai failli avoir un accident, et Dieu m'a gardé. Puis quand on arrive dans un autre cercle, en dehors de l'église, ah j'ai failli avoir un accident, mais j'ai eu de la chance. Alors, quand on est en dehors de l'église, on a de la chance, et quand on est dans l'église, Dieu nous a gardé. Pour rendre gloire à Dieu. Et là, Jésus, c'est un reproche qu'il fait. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour venir rendre gloire à Dieu et qu'on puisse être fidèle et lui rendre gloire quand il agit pour nous. Et Jésus relève cet homme et lui dit, lève-toi, va. Ça, c'est un mot qu'on trouve souvent dans la bouche de Jésus. Va, ta foi t'a sauvé. Les 9 autres n'ont pas entendu cette parole de Jésus. Ah, ils ont été guéris, d'accord. Bon, bah, ils sont guéris. Et après, ah, bah, c'est bien d'être guéris. C'est vrai, ils étaient lépreux. Leur vie change, d'accord. Mais après la mort. Après la mort. Bah, ils sont plus lépreux, ils vont plus mourir. Bah, un jour ou l'autre, hein, ça arrive. Ils vont aller de quel côté? Cet homme, lui, même s'il est samaritain, a entendu Jésus lui dire, non seulement ton corps a été guéri, lavé, j'allais dire sauvé, et ton âme aussi. Pourquoi son âme serait sauvée? Parce qu'il est venu tout simplement se prosterner devant Jésus et reconnaître que Jésus est Dieu et confesser le nom de Jésus. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu le crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, dit l'apôtre Paul aux Romains, tu seras sauvé. Et cet homme est venu confesser à haute voix, dire ce que Dieu a fait pour lui et venir se prosterner aux pieds de Jésus en disant « Je reconnais que tu viens de Dieu, que tu es le Messie, que tu es la solution, celui que Dieu, le don de Dieu, c'est toi. Je l'ai vu dans ma vie et il l'accepte, il reconnaît Jésus comme son sauveur, comme celui qui l'a guéri et comme celui qui devient son Dieu puisqu'il se prosterne devant lui. » Et Jésus lui dit « Ta foi, la foi tu as manifestée. T'a sauvé. » Mais les autres, ils n'ont pas eu la foi pour être guéris, si? Ben si. Ils ont bien cru ce que Jésus a dit. Quand Jésus a dit, allez vous montrer au sacrificateur, les 10 sont allés. Les 10 ont cru et ont mis leur foi. Ils ont eu la foi pour être guéris. Ils n'ont pas eu la foi pour être sauvés. Non? Est-ce que c'est juste là ce que je dis là? Ben, ils sont bien allés vers les sacrificateurs. Ils ont eu, quelque part, la foi. Quelqu'un aurait pu dire, oh, c'est quoi cette affaire d'aller vers le sacrificateur? Non, non, moi je rentre chez moi. Non, ils y sont allés. Peut-être qu'ils se sont encouragés les uns les autres, qu'il y en avait qui étaient plus convaincus que d'autres, peut-être. Mais ils ont manifesté un peu de foi. Et ils ont été guéris. Mais ce n'était pas suffisant. Il fallait qu'ils reviennent à Jésus. De la même manière, dans votre vie, c'est peut-être manifester un peu de foi. Peut-être qu'au travers de la foi, vous avez déjà fait des expériences avec Dieu. Peut-être que vous avez déjà vu Dieu agir dans votre vie. Comme ces 10 lépreux qui, certes, disent « J'ai été guéri, j'étais lépreux, je ne le suis plus. Pourquoi ?» Parce que je suis allé vers Jésus, d'accord ? Ils peuvent le dire. Mais ils n'ont pas entendu Jésus leur dire « Ta foi t'a sauvé. » Faire une expérience, avoir rencontré Jésus et avoir été béni par lui, c'est bien. Mais avez-vous entendu Jésus déjà vous dire « Ta foi t'a sauvé. » Le salut aujourd'hui, comme Jésus va dire à Zachée, aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Pas seulement la bénédiction, pas seulement le miracle, pas seulement le bienfait que Dieu veut te donner, mais puissiez-vous dire ce matin, le salut est rentré dans ma maison. Je vais inviter les musiciens pendant qu'on va réfléchir sur ces paroles et pouvoir dire, je ne veux pas ressembler aux 9 autres. Non, non, moi je ne veux pas être comme les mauvais, je veux être comme le bon. Je veux revenir dire à Jésus combien je l'aime, combien je le suis reconnaissant. Peut-être que quelqu'un est là dans la première étape avec cette histoire de foi qui doit aller jusqu'au bout, d'obéir à cette parole. J'aimerais vous encourager en disant, en obéissant à la parole, en obéissant par la foi, toujours quelque chose de bon. Parce que la parole de Dieu est vivante. Et n'oubliez pas de revenir lui rendre gloire à haute voix. Amen.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.